Le Pauline Jaricot. Printemps 1805. Au lendemain de la Révolution française, le pape Pie VII, regagnant Rome après avoir couronné Napoléon à Paris, fait halte à Lyon. Antoine Jaricot, négociant en soie de cette ville, en profite pour placer sa famille sur le passage du pontife, implorant une bénédiction particulière. Pie VII pose ses mains sur la tête de la petite Pauline. Béni par le vicaire du Christ, cet enfant se distinguera très tôt par son amour pour Jésus et sa tendresse pour tous les malheureux. Pauline Jaricot est née le 22 juillet 1799 à Lyon. Ses parents, Antoine Jaricot et Jeanne Latier, sont profondément chrétiens. Pauline écrira plus tard « Heureux ceux qui ont reçu de leurs parents les premières semences de la foi. Soyez bénis, Seigneur, de m'avoir donné un homme juste pour père, et pour mère, une femme pleine de vertu et de charité. » 6 enfants forment déjà la couronne de cette famille lorsque Pauline vient au monde. Dans la cour de la maison familiale se trouve un puits profond. Un jour que sa mère vient de puiser un plein seau d'eau, Pauline, âgée de 7 ans, s'inquiète. « Dis, maman, est-ce qu'il reste encore de l'eau dans le puits ?» Mais oui, la source ne diminue pas. « Oh, que je voudrais avoir un puits d'or pour en donner à tous les malheureux, afin qu'il n'y ait plus du tout de pauvres et que personne ne pleure plus. » À l'âge de 10 ans, l'enfant est mise dans un pensionnat. J'eus le malheur, reconnaîtra-t-elle, de me lier avec une compagne qui, n'ayant ni la candeur ni la simplicité de son âge, connaissait déjà les calculs et les artifices de la coquetterie. Elle me racontait toutes les conquêtes qu'elle croyait avoir réussies sur les cœurs. D'abord effrayée et troublée, Pauline sent bientôt naître et grandir en elle le besoin de plaire et d'être aimée. Heureusement, à l'approche de sa première communion, elle se sépare de sa compagne douteuse. « Jésus-Christ triompha à l'heure de mon cœur, » écrit-elle. Et quand il fut décidé que je le recevrais bientôt, je ne pensais plus qu'à lui préparer une demeure qui ne fût pas trop indigne de lui. Après un long examen de conscience, elle fait une bonne confession, puis reçoit Jésus hostie avec une immense joie. Le même jour, elle est fortifiée par le sacrement de confirmation. Cependant, la belle société l'attend encore. Elle apprécie les tenues élégantes et écoute avec complaisance les flatteries. Un jour, Pauline tombe d'un escabeau. Il s'ensuit une maladie étrange. Elle marche comme une personne ivre, l'air égaré, et perd entièrement la parole. Sa mère, qui la veille jour et nuit, tombe elle-même gravement malade, puis meurt loin de Pauline, le 26 novembre 1814, en offrant sa vie à Dieu pour sa fille. Cette mort est assez longtemps cachée à celle-ci pour qu'elle puisse recouvrer la santé. Avec la convalescence, Pauline retrouve son désir de plaire. Parmi les jeunes filles de son milieu, elle se distingue comme la plus élégante. Pourtant, elle n'est pas heureuse. « Mon cœur, dira-t-elle, éprouvait une soif ardente, que rien ne calmait. Parce que ce pauvre cœur, toujours esclave de la créature, ne trouvait qu'un vide infini dans une affection périssable et une torture inouïe dans ses résistances à l'appel divin. » L'illusion de la vanité. Un des derniers dimanches de carême 1816, un prêtre de grande vertu, l'abbé Jean Vendelwurst, vicaire à la paroisse Saint-Nizier de Lyon, donne le sermon. Pauline est venue l'entendre, vêtue de sa belle robe de printemps. Les paroles du prédicateur sur les dangers et les illusions de la vanité mondaine conquièrent la jeune fille. Elle se reconnaît dans chaque détail.